Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 8h30 ici à Paris, même heure à Kigali, 7h30 à Kinshasa.
Xavier Besson.
Bonjour à tous, c'est un coltan tungstène. On s'intéresse ce matin à la contrebande de minerais de l'Est congolais qui transite par le Rwanda. D'après le dernier rapport des experts de l'ONU, ces exportations illégales sont en forte hausse depuis un an et ces experts mettent en cause l'armée rwandaise. Dans ce journal également, reportage à Kinshasa avec des sinistrés des inondations du mois d'avril qui, 3 mois plus tard, ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Les Comores qui fêtent aujourd'hui les 50 ans de leur indépendance. Le Tchad, avec les évêques catholiques qui appellent à une grande concertation nationale face à la multiplication des violences. Et puis notre dossier, une fois n'est pas coutume, à Paris, où un festival de cinéma met à l'honneur des documentaires primés lors des récentes éditions du FESPACO. C'est l'un des points abordés donc dans le rapport des experts de l'ONU cette semaine à propos du rôle et des objectifs de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles de l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après le rapport, la contrebande de minerais depuis le territoire congolais vers le Rwanda est en forte hausse. Et pour les experts de l'ONU, les militaires rwandais ne sont pas étrangers à cette augmentation des exportations illégales. Précision et explication avec Alexis Bédu.
De l'étain, du coltan, du tungstène qui, une fois au Rwanda, sont mélangés à la production locale puis étiquetés comme minerais rwandais. La situation s'est aggravée en un an, explique Jean-Pierre Okenda, directeur de l'ONG congolaise, la Sentinelle des ressources naturelles.
Bien au-delà du fait qu'il y a cet objectif économique en Rwanda qui a-t-il combattu vis-à-vis du Congo, il faut comprendre aussi qu'il y a le coût de la guerre. La guerre a un coût pour le Rwanda. Le fait qu'il y a eu aussi de l'aide au développement du Rwanda qui a été suspendue par plusieurs pays, je crois quand même qu'il fallait trouver des débouchés. Et je ne vois pas une autre débouché en dehors, en fait, du secteur minier.
Établir une traçabilité des minerais en temps de guerre est absolument impossible. Michael Dodin est chef du programme ITSKI, un mécanisme qui rassemble différents acteurs de l'industrie minière pour tenter de tracer ces minerais. Dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, l'ITSKI a pu reprendre du service.
Le M23 s'est retiré de ce territoire et depuis peu, nous avons redéployé nos équipes et recommencé à travailler avec le gouvernement pour reprendre la traçabilité et le suivi sur le terrain.
En quoi l'accord qui a été trouvé entre Rwanda et la RDC la semaine dernière peut changer, modifier votre travail, en tout cas sur place?
L'impact que j'espère, c'est d'avoir une résolution du conflit au niveau local pour que nous puissions redémarrer l'étiquetage et le suivi sur le terrain pour l'atténuation des risques.
Et selon le rapport des Nations Unies, la contrebande d'or vers l'Ouganda a également fortement augmenté.
Alexis Bédu, la République démocratique du Congo, où les quartiers est, notamment de Kinshasa, la capitale, peinent encore à se remettre des graves inondations du début du mois d'avril, des pluies diluviennes qui ont fait au moins 40 morts et des centaines de sinistrés, des hommes, des femmes et des enfants qui souvent ont trouvé refuge dans les différents centres d'urgence mis en place par les autorités, comme par exemple au stade Tata Raphaël. 3 mois plus tard, certains y sont encore. Reportage d'Alexandra Branjon.
Nous les sinistrés, nous voulons quitter cet endroit. Nous allons rester ici pendant combien de temps ?
3 mois après les inondations dans leur quartier, ils sont encore plusieurs centaines à vivre au centre d'urgence, au stade. Anifa vient de Ndahou, un des quartiers les plus touchés. Situé entre les rivières de Ndjili et Matete, ce quartier de Limete est régulièrement inondé. Aujourd'hui, cette jeune femme, mère de 4 enfants qui a perdu un bébé dans les inondations, dit n'avoir nulle part où aller.
On va rentrer comment? On va partir où? Tout est par terre. La maison, toutes les choses s'est abîmées, l'argent s'est parti avec de l'eau. Non, on ne travaille même pas, même aujourd'hui.
Dahou, Salongo, Dingi Dingi, certains de ces quartiers ont été inondés une deuxième fois depuis les fortes pluies du mois d'avril. Et certains, comme cet habitant, disent avoir trop peur pour y retourner.
Inondation jusque-là, c'est tout terre là. L'eau a ne pas résisté. Même les nageurs, ils ne peuvent pas nager. Je ne rentre pas parce que c'est abîmé. Il n'y a pas moyen d'habiter là-bas. J'ai eu peur aussi de rester encore là-bas. Il y a encore des pluies qui peuvent arriver.
Certaines habitations ont été construites trop près de la rivière, assurent les autorités. Mais en l'absence de canalisation et de réseau de drainage, les fortes pluies transforment vite ces quartiers en véritables marécages. Alexandra Branjon, Kinshasa, RFI.
Kinshasa où il est 7h34, 9h34 à Moroni, aux Comores, où c'est un dimanche de fête aujourd'hui. fête d'anniversaire pour les 50 ans de l'indépendance de l'archipel. Une indépendance acquise du colon français par référendum et que beaucoup considèrent aujourd'hui toujours comme incomplète sans Mayotte, la quatrième île de l'archipel qui est restée française en 1975. Écoutez le témoignage de Dini Nassour, ancien ministre comorien, aujourd'hui installé à Marseille dans le sud de la France, mais qui était lycéen en 1975 à Moroni au moment de la proclamation de l'indépendance. Il se souvient d'un grand moment de joie.
On est parti devant la Chambre des députés et on a attendu la déclaration de l'indépendance. C'était l'euphorie populaire. On se félicitait, on manifestait, tout le monde souriait l'indépendance. Ce jour-là, on ne pouvait pas ne pas être heureux. Même les gens qui ne se connaissaient pas, ils s'embrassaient, ils s'étreignaient, ils se donnaient la main. Et puis, on se disait, Ouzali. Ouzali, c'est le terme comorien qui dit qu'il y a du bonheur. On est toujours fiers de l'avoir fait. On sait qu'en 50 ans, on a fait beaucoup plus que les 150 ans de la colonisation. Seulement, il y a des problèmes. Notre indépendance est inachevée à plusieurs égards. Au point de vue intégrité territoriale, Mayotte est occupée illégalement par la France. Et là où le bât blesse, c'est qu'on a l'impression que la France n'a aucune intention de négocier. Alors que pour les Comoriens, c'est un combat à gagner. Et pour le droit international, c'est un vol, en quelque sorte.
Dini Nassour, ancien ministre comorien, au micro de Magali Lagrange. Et aujourd'hui, de quoi rêvent les jeunes comoriens? Un reportage de David Bachet à écouter dans une quinzaine de minutes et à retrouver sur RFI.fr. Au Tchad, les évêques catholiques appellent à une grande concertation nationale depuis plusieurs mois. Ils alertent sur les violences qui touchent le pays et hier, à l'issue d'une semaine de réunion, ils se sont dit profondément attristés et indignés, estimant que ces violences révèlent, selon eux, je cite, l'absence de l'État et dans certains cas la partialité de ses représentants. Ils appellent donc à une grande concertation nationale pour tenter de trouver des solutions pérennes. Écoutez Monseigneur Martin Wainge Bani, évêque de Doba et président de la Conférence des évêques catholiques tchadiens.
Cette année, avec les événements qui se sont survenus, je crois que ça va dans le même sens de ce que nous avons constaté au mois de décembre pour notre conférence, à l'occasion de la fête de Noël. Et on a l'impression qu'on a perdu un peu le respect de la dignité humaine et de la sacralité de la vie. On a dit qu'il faudrait quand même revenir un peu sur notre message et attirer l'attention sur cela, parce que nous sommes en saison de pluie et ça devient plus difficile pour le monde rural de faire vraiment le travail de champêtre à cause de tous ces conflits, surtout celui d'éleveurs et agriculteurs. Est-ce que on doit continuer comme ça, sans prendre des mesures, sans se pencher sérieusement sur les causes profondes de ce problème? Il faudrait penser quand même à une concertation nationale sur les causes profondes de ces violences. Le problème n'est pas vraiment traité jusqu'à la racine. Donc, il y a eu des élections, il y a des institutions qui ont été mises en place. C'est ces institutions-là qui doivent aussi se pencher sur le problème pour l'avenir du pays.
Monseigneur Martin Wainge Bani, le président de la Conférence des évêques catholiques du Tchad, joint par Esdras Ndikoumana. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Togo, avec ses condamnations de personnes qui ont pris part la semaine dernière aux manifestations contre le régime de Fornia Simbé à Lomé notamment. Elles ont été condamnées à un mois de prison ferme, 11 autres mois avec sursis. Les rassemblements n'étaient pas autorisés et ces personnes ont été reconnues coupables de troubles aggravés à l'ordre public. Les sports, avec du cyclisme et du football ce matin. Cyclisme, c'est la première étape du Tour de France hier et le seul représentant africain du peloton qui est passé à quelques centimètres de la victoire, l'Érythréen Binyam Girmay qui finit deuxième et qui portera pour l'étape du jour, toujours dans le nord de la France, le maillot blanc de meilleur jeune. Et en football, c'est le début de la CAN féminine. Le match d'ouverture a vu s'affronter le pays hôte, le Maroc et la Zambie. Un match qui s'est soldé sur le score de 2-2. Sur place, François Humfer Kataji.
Avant le match d'ouverture, la chanteuse marocaine Jaylan chauffe le stade olympique, puis l'hymne marocain est repris d'une seule voix. coup d'envoi de cette CAN est donné à 21h02 précisément. Deux buts après 11 minutes de jeu, cette CAN part sur un rythme effréné. Aziza, 30 ans, vêtue et maquillée aux couleurs du Maroc, salue le spectacle.
Il y a du jeu, franchement les deux équipes sont au top.
Les championnes d'Afrique de futsal donnent de la voix en tribune, tout comme cette supportrice qui veut toujours y croire à la mi-temps alors que le Maroc est mené 2-1.
Toujours, après c'est un début compliqué, une entrée en compétition, mais on croit en eux, on est sûr que le match n'est pas fini, on va faire la différence.
Et malgré les nombreuses occasions zambiennes, les joueuses marocaines semblent l'avoir écouté. À la 87e, Rizlan Chebak décoche une frappe lumineuse des 20 mètres qui trompe la gardienne des Chipolopoulos, Sarah Kassi, joueuse du Havre et milieu de terrain de l'équipe nationale.
C'était une très 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 belle frappe, on ne s'y attendait pas. Je trouve qu'on n'a pas assez frappé, on n'a pas assez tenté durant ce match. Chebak, elle a suivi son instinct et elle nous a toutes délivrées.
Malgré ce nul concédé en toute fin de match, l'équipe zambienne s'est positionnée comme l'une des grandes équipes de ce tournoi, tandis que les Marocaines savent désormais qu'elles peuvent compter sur le soutien sans faille de son public. François Imperkataji, Rabat, RFI.
Et trois matchs sont au programme aujourd'hui. Sénégal-RDC, Nigeria-Tunisie et Algérie-Botswana. Enfin, avant de retrouver Pierre Boudias, notre dossier ce matin est à Paris, où le festival Seitu Africa diffuse jusqu'à ce soir des documentaires du continent et de sa diaspora. Hier soir est consacré à des films primés ces dernières années au FESPACO, le grand festival de cinéma de Ouagadougou. Wally Diallo.
L'écran s'assombrit alors que le dernier documentaire touche à sa fin. Lorsque les lumières se rallument, Evelyne est encore bouleversée.
C'est vrai qu'on ne sort pas tout à fait indemne de ce film.
Oui, c'est un film dur.
Il est très dur.
Très dur.
L'Homme Vertige de Mallory Éloi Pesley raconte l'histoire de ceux qui vivent en marge de la société à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Étalon d'or du documentaire 2025, c'est le premier film entier à remporter ce prix. Et ce, à la grande surprise de Sophie Salbeau, sa productrice.
J'étais très surprise. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un film guadeloupéen ait les talents. Ça n'était même pas venu à l'esprit et j'ai trouvé ça beau. Et je sais que Mallory était très heureuse de ça. Et je trouve que ce geste est beau. C'est dit ce qu'est le FESPACO, c'est-à-dire que festival du continent africain et de la diaspora.
En plus de L'Homme Vertige, les festivaliers ont pu découvrir Le Médaillon, Poulain d'Argent 2025, ou encore Au Minobu, Étalon d'Or du documentaire 2023. Une programmation que Evelyne n'aurait manqué pour rien au monde.
J'avoue que je me bloque la période et il ne faut pas qu'on me dérange. Et je suis là, je fais quasiment toutes les séances. Oui, parce que c'est très important et puis c'est une chance d'avoir ça à Paris, d'en profiter. Ça serait malheureux de ne pas le faire.
Le festival prendra fin ce dimanche autour d'une soirée patrimoine ivoirien animée par Archive Ivoire, autour du film d'Henri Duparc, Mouna ou le rêve d'un artiste.
Un festival donc Seitu Africa dont l'un des buts affichés est de donner de la visibilité à des films qui en manquent. Écoutez Aibindo, l'une des organisatrices.
Il n'y a pas assez de distributeurs en fait. Les films qu'on va diffuser dans le cadre de la rétrospective FESPACO, ils n'ont pas de distributeurs, il n'y a pas eu de sortie salle. Donc en fait, ils ont pu sortir par ailleurs, ils ont pu circuler en festival, mais du coup, ils ne sont pas sortis en France parce que soit ils sont passés sous le radar des distributeurs, soit les distributeurs se disent, bon des fois c'est des questions de format aussi, si les films font une heure, c'est aussi plus compliqué à sortir en salle, mais des fois on fait aussi une heure pour des questions d'économie par moment. Mais du coup, ça reste histoire de convaincre en fait. C'est une accessibilité à des endroits, c'est connaître des réseaux, et du coup forcément quand on est loin de ces espaces-là, c'est plus compliqué de connaître les bons tuyaux pour réussir à distribuer, faire circuler son film le plus largement possible. Du coup, en 2022, on a rajouté Seitu Africa, festival de documentaires africains et afro-diasporiques, parce qu'il y avait effectivement ce souhait aussi de croiser les différents espaces de l'Atlantique Noir. Avoir un festival de cinéma qui était établi dans des salles de cinéma parisiennes permettait en fait à ces cinéastes, à ces histoires, d'avoir la possibilité pour les diasporas de les découvrir en fait.
Aibindo, l'une des organisatrices du festival Seitu Africa à Paris, où il est maintenant 8h44. Vous êtes avec Pierre Boudias pour la suite d'RFI Matin.